France Info.
Le micro européen sur France Info, aujourd'hui focus sur le Portugal. Il y a 50 ans, à 0h20 du 25 avril 1974, la chanson interdite Grandola Vila Morena de José Alfonso était diffusée sur les ondes. Le signal pour le début de l'insurrection. 50 ans d'une dictature qui va s'écrouler en quelques jours. Une dictature, celle de Antonio de Oliveira Salazar. Mon invité est un spécialiste du Portugal, Yves Leonard, et son dernier ouvrage, Salazar, le dictateur énigmatique. Bonjour Yves Leonard, bon dia.
Bon dia.
Yves Leonard, Salazar, le dictateur énigmatique durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas fait comme Franco, il est resté à l'écart.
Oui, c'était un homme assez prudent, habile, qui avait l'art, comme on dit, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pendant la Seconde Guerre, il a quand même donné une préférence pour l'Alliance britannique, qui était l'alliance traditionnelle maritime avec la puissance tutélaire depuis le Moyen-Âge. Mais il a quand même construit une relation préférentielle avec l'ambassadeur allemand à Lisbonne.
Lisbonne, ni d'espion à l'époque.
Lisbonne, ni d'espion. Avec tout le monde qui rivalise, qui s'observe, qui s'espionne, le règne des bobards et des fake news avant l'heure correspond bien un peu à la nature sibylline, sinueuse, ductile, comme je le dis, de Salazar, qui prend toujours soin de ne pas trop se dévoiler, de préserver les intérêts stratégiques de son pays, c'est-à-dire la neutralité. C'est un homme, voilà, qui est très habile, qui sait à peu près naviguer à vue, qui négocie de manière très sournoise avec les Anglais, la question des Açores.
Il y a aussi les colonies portugaises en Afrique.
Ça, les colonies en Afrique, c'est la partie non négociable, c'est ce à quoi on ne peut pas toucher. Et donc le récit national qu'il a construit ne peut pas se comprendre sans l'apport des colonies. C'est-à-dire que le Portugal n'est pas un petit pays, dit la propagande, et il n'est pas un petit pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Angola, le Mozambique et tout le reste.
Salazar, c'est aussi le dictateur qui veut un pays agraire, surtout pas un pays industriel, parce que pour lui, qui dit industrie dit prolétariat, qui dit prolétariat dit communisme.
Voilà, et lui, ce dont il rêve, c'est un Portugal rural, où les Portugais vivraient habituellement, comme il le dit, c'est-à-dire en respectant l'ordre immuable des choses. Ce registre-là, Salazar va beaucoup l'utiliser. D'abord, lui-même est originaire d'une province intérieure, d'un milieu relativement modeste, et c'est un homme qui a en fond de lui un nationalisme de la terre et des morts, comme on disait. Et puis, il y a l'Église catholique qui est puissante, bien implantée. Il y a des notables locaux qui sont sous contrôle à sa main, et ça, ça crée un écosystème local qui lui permet, eh bien, de régner sans partage. Et pour tous les récalcitrants, ils existent, de les identifier comme communistes.
Pas d'opposition.
Pas d'opposition.
Avec une police politique lapide.
Lapide, qui est omniprésente, qui est très, très bien organisée. Elle va l'être de plus en plus après la fin de la Seconde Guerre mondiale et ses moyens vont aller en augmentant, qui identifie ceux qui conspirent contre le bien de la nation, comme on dit. Mais à la fin des années 50, il y a un double phénomène. Salazar va vouloir promouvoir ce qu'il appelle une sorte de colonialisme tardif, c'est-à-dire dire aux Portugais, issus de milieux modestes, les petits blancs, comme on les appellera, et bien de s'installer dans les colonies, en Angola et au Mozambique principalement. Et puis une réalité de terrain, la pauvreté, mais pas seulement la pauvreté, les guerres coloniales qui font que beaucoup de jeunes Portugais, pour ne pas faire le service militaire, pour ne pas partir outre-mer, eh bien, quitte dans la clandestinité le Portugal. Ce sont des centaines de milliers de Portugais qui fuient littéralement le fameux saut ou le salto pour se réfugier en France, en Allemagne fédérale, en Suisse, en Belgique, bref, là où ils peuvent espérer trouver un avenir meilleur, souvent difficile au début parce que c'est les bidonvilles, mais ils sont au contact de populations où ils voient qu'il y a de la consommation, des libertés publiques, des protections syndicales, des congés payés, toutes choses qui n'existent pas au Portugal. Ouais. Et ils se disent, mais c'est peut-être ça qu'il faudrait imposer dans notre pays qui est si en retard.
Et puis c'est une dictature portugaise pas trop mal vue par l'Occident.
Ce qui a sauvé en partie le régime, c'est d'abord son attitude ambiguë pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout son anticommunisme et la guerre froide. L'OTAN, membre fondateur de l'OTAN, pas comme l'Espagne. Salazar, tout de suite, est l'interlocuteur privilégié. Et en plus, il a des relations avec Franco qui sont complexes. Amitié et intérêt commun, et affinité élective aussi sur quelques fondamentaux. Mais en même temps, comme on dit, c'est aussi pour lui un général. Et un général pour Salazar, c'est quelqu'un qui sur le plan intellectuel, est faiblement structuré.
4 ans avant la révolution des œillets du 25 avril 1974, Salazar décède le 27 juillet 1970. Votre dernier chapitre, on va lire la fin de Salazar, s'appelle « Horizon funèbre » et non pas « Oraison ».
Horizon funèbre, effectivement, parce que les derniers mois, qui correspondent bien à cette image à la fois déclinante de sa personne et d'un régime qui n'arrive plus, et d'ailleurs la suite va le montrer, le salazarisme sans Salazar, ça ne marche pas.
Merci à vous Yves Leonard. Salazar, le dictateur énigmatique, est édité chez Perrin. À bientôt.
Merci.